With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Si on peut continuer à passer des bons moments, c'est grâce à MyCanal, le site et l'application de Canal+. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Je vous souhaite un bon moment.
Le monde d'après, comment est le monde d'après?
Il est pareil qu'avant, avec une pause. Non, je pense qu'on a tous réfléchi à des trucs, quoi. Il y a peut-être des choses qui sont sorties, peut-être qu'il y a des gens qui ont écrit des films ou des... Enfin, il y a peut-être de la créativité qui en est ressortie, je sais pas.
J'espère.
Il y avait des vannes comme ça avec des gens qui disaient ouais, ils vont en faire une comédie avec Christian Clavier qui.
Je crois que bah ouais, c'est dans les tuyaux. Hein.
Qui est confiné avec Omar Sy.
Non, c'est sûr.
En fait, il était raciste, mais en fait, ça va maintenant.
Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir rejoints dans un bon moment. J'espère que vous êtes bien dans votre life. En tout cas, nous, on va essayer de passer un bon moment. Je suis accompagné de mon fidèle nettoyeur de lunettes pour lui-même.
Profitez-en.
Navo, alias.
Il n'y a que les gens qui couchent avec moi qui voient
cette tête.
Bah ouais.
Et voilà, vous le reconnaissez, voilà. C'est un peu le Superman de la répartie.
Ouais.
C'est-à-dire que quand il a ses lunettes, on le reconnaît. Quand il n'a plus ses lunettes, on ne le reconnaît plus.
Quand je mets mes lunettes, on se dit waouh. Écoutez-le.
On est accompagné aujourd'hui d'Haroun. Haroun, comment ça va, mon pote?
Très bien.
Sud Radio, qu'est-ce qui s'est passé? J'adore faire des intros comme ça.
Ah putain, l'intro à la polémiste de France Inter.
Non, on en parlera plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, Valentine.
Pourquoi on en parlera plus tard?
Non, Sud Radio, on peut en parler.
Moi, j'ai adoré l'intelligence avec laquelle tu as parlé. Et ça nous a fait du bien d'avoir quelqu'un d'intelligent qui parle à quelqu'un qui n'est pas vraiment... dans mes standards d'intelligence.
Mais en fait, je suis même pas sûr que ce soit très intelligent ce que j'ai dit. C'est juste que je voulais pas y aller, quoi. Je voulais pas aller dans un conflit.
Mais c'était ça qui était intelligent.
Tu voulais aller sur Sud Radio parce que tu t'y attendais un peu, non?
Pas vraiment, non. Non, je pensais que j'allais parler de mon spectacle.
On va parler pétanque.
Qu'on allait parler société, enfin des choses dans la bienveillance, quoi. Mais... Non, mais moi, je suis un peu un novice, je regarde pas grand chose, j'écoute pas grand chose, donc je connaissais pas trop l'ambiance.
Non, moi non plus, hein. J'ai découvert.
Voilà, bah écoute.
Grâce à toi, j'ai découvert. Sud Radio, te remercie.
Merci, enfin de rien, pardon. Ce qui s'est passé, bah, c'est que le gars, je sais pas, il était chaud, quoi. Et je pense qu'il. Non, mais je pense qu'il est dans des idées qui sont en boucle dans sa tête.
Oui, mais t'as entièrement. Je trouve que t'as été extrêmement brillant et didactique quand tu lui as dit mais vous en connaissez et que le mec dit non.
Voilà, mais c'est ça le problème.
Là, tu dis bah.
Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est des sujets auxquels je m'intéresse beaucoup. Moi, faut le dire. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils veulent s'attaquer à moi. Je m'y intéresse beaucoup, donc je me renseigne pas mal dessus. Manque de bol, j'avais fait une interview avec une femme voilée qui m'avait passé un livre coécrit par des musulmanes qui en parlaient, des musulmanes voilées, non voilées. Donc je l'avais lu en plus et je me disais,
T'avais un background de...
Elles ont leur liberté. Bah, un background qui est plutôt limité, c'est bah en fait...
Parle-leur à elles,
fait. Ouais, exactement. Elles ont des choses à dire.
Ouais.
Et c'était juste ça. C'était intéressant ce qu'elles disaient. Tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais il y avait quelque chose d'intéressant dans le livre. Donc, je lui ai dit, intéresse-toi vraiment. Et j'étais surpris. Moi-même, j'étais surpris quand il me dit, non, j'en connais pas. Je vais pas aller au Muro pour aller voir des femmes voilées. Je me disais, mais où est-ce que tu vis pour te dire que c'est au Muro qu'il y a des femmes voilées, tu vois? Et c'est le même principe que le vote extrême droite dans les villages où il y a absolument aucun étranger, quoi.
Ouais. Moi, j'ai connu ça parce que en tant que blanc, moi, je peux aller tout d'un coup à un mariage. Non, mais je peux aller à un mariage où quelqu'un m'explique à moi qui ai grandi en banlieue et qui vit à Paris qu'il vote FN pour moi.
Oui, voilà.
Parce qu'en gros, le gars, moi, ça m'est vraiment arrivé que le gars le mec me dit face à face, normal, je vote FN. J'ai dit, ok, mais pourquoi? Il fait, tu sais très bien. Parce que dans sa tête, il se dit, mais lui, il est à Paris, il le sait, il le vit au quotidien, ce que je vois sur TF1.
Ah, ok.
Ce que je vois sur BFM et sur TF1, il le vit. Ouais. Et moi, je dis, mais. Et il m'explique, en gros, qu'il le fait pour moi. Il le fait parce que nous, on est les premiers à se faire envahir et à avoir des problèmes. Et quand il m'explique ça, je dis, mais tu vois bien que c'est le contraire, puisque je te dis que j'y suis, je le vote pas. Tu vois qu'à mais Paris, ouais, le vote, il est très bas. Donc, je te le dis que, tu vois. Mais lui, dans sa tête, il était là, mais il devrait me remercier.
Mais si tu veux, en fait, je pense que ce qui a marché avec le truc Sud Radio, c'est que je le vois pas du tout avec la haine, le gars.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont dans un système de pensée qui est dans lequel ils sont bloqués parce que ils sont
ça,
ils
ça
sont,
se
ils
voit sont... en plus qu'il y a, il y a, il y a, il y a ça va pas quoi.
Il, ouais, mais ils s'engrainent tous ensemble. Mais si tu veux, c'est comme le mec quand t'es en campagne. Tu fais du foot avec un gars, il y a un cadre dans l'équipe. Ouais, les Arabes, on les aime pas, mais toi, cadre, ça va, tu vois. Et en fait, ce sont foncièrement des gens qui sont cool.
Ouais.
Mais qui sont juste dans un système de pensée qui est celui-là. Et c'est dur d'en sortir pour eux. Et au final, ce sont des gens qui sont profondément généreux. Et c'est des gens qui, s'ils voient un gars en galère, qu'il soit étranger ou pas, ils vont dire, ah, on va pas le laisser quand même, il est en galère, tu vois. Allez, viens prendre un coup avec nous. Ah, tu bois pas, ah, t'es chiant. Enfin, tu vois.
C'est bon, le cochon, on va merde.
Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'ils sont déçus, moi-même, que tu manges pas du cochon. Mais sincèrement déçu, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc je pense qu'il y a pourtant pas...
bien gustatif, quoi.
C'est, si tu veux, c'est des systèmes de pensée à déconstruire, mais c'est pas en les voyant comme des gens absolument les ennemis et
mais
le côté du mal
raison.
Et tout que tu peux le déconstruire, quoi.
T'as entièrement raison.
Ouais. Ouais. Mais il y a un peu ça, d'ailleurs, dans Bloqué, à un moment, Aurèle, il a une phrase comme ça où il dit... où Gringe lui dit, mais ton oncle, il est raciste. Il fait, ah ouais, putain, à chaque fois, j'oublie qu'il est raciste parce qu'il est sympa.
Ouais, c'est exactement ça.
Fait, ah oui, c'est vrai, putain. Ouais. Tu peux être raciste et sympa, et c'est ça tout le problème. C'est que ça prouve que c'est une erreur de la pensée et pas une haine profonde où
ouais,
la personne
aussi,
est un monstre.
Ouais, je pense aussi, ouais, c'est un peu, c'est mais un peu simple.
Le vrai problème vient par contre du fait de il vient de ceux qui créent les idées et qui donnent des arguments factices à ces gens-là.
Il y avait quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui disait le racisme, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui est en colère, tu lui insuffles des idées qui ne sont pas les bonnes et du coup, il
ouais,
prend
exactement.
L'idée de la colère et il identifie sa colère.
Ouais,
et des fois, il radicalise sa colère.
Ouais.
Tu vois, tu peux radicaliser
ouais.
une colère.
Ouais,
mais en fait, pour moi, c'est devenu plus vicieux parce que en fait, c'est plus quelqu'un qui se trompe de colère, c'est quelqu'un à qui on donne la mauvaise colère.
Oui, exactement.
Il est en colère et on lui dit c'est à cause de ça. C'est même pas lui qui développe une pensée, tu vois, en se disant je suis en colère, c'est sûr que c'est à cause de ça. C'est quelqu'un d'autre qui vient et dit ça va pas toi en ce moment. Ouais. C'est de sa faute à lui là-bas.
C'est sûr
là,
ça.
C'est un vieux mécanisme humain.
Mais oui, mais c'est
le travail,
mais c'est
pas
ce qui se passe.
T'as pas de travail.
Non, j'ai pas de travail. C'est ça lui.
Oui, bah lui.
Le quoi le.
Il a pris ton travail.
Ah ouais. Le gars qui a le 4x4 là-bas.
Non.
Tous les mecs qui ont des 4x4, c'est mon problème maintenant.
Non,
le 4x4, je dois péter un câble.
Celui qui est. Non, à côté là. Celui qui est.
Masqué, Rosoro là.
Non. Bon. T'es pas prêt.
Ok.
Mais voici un lien YouTube. Okay, regarde, c'est super.
C'est ça qui se passe dans les dérèglements des pays, quand ils déstabilisent un pays. En général, c'est comme ça qu'ils utilisent les conflits interethniques. Souvent, c'est une entité extérieure qui dit, mais vous savez que c'est un peu de la faute des chrétiens là-bas, ou c'est un peu de la faute des musulmans là-bas.
Ah bon, et c'est vraiment des techniques genre CIA.
C'est ça qui s'est passé au Rwanda. C'est les Hutus, les Tutsis, c'est les Belges qui les ont montés les uns contre les autres. Au début du siècle, il y avait une classe.
Ça m'aurait pas plus qu'il a dit le Hutu.
Ouais, bah c'est ça. C'était différentes classes et il y a eu un moment où vous avez conscience de ce qu'ils vous font vivre. Et d'un coup, ils se sont mis à se détester, quoi.
J'avais fait un passage là-dessus où je disais, ça y est, maintenant, là, c'est bon, j'ai fait 2-3 trucs, maintenant je suis riche. Donc ça y est, j'ai tout le. Ça y est, je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre et riche maintenant. Ça y est. Donc je sais plus trop quelle est ma place maintenant sur scène. Qu'est-ce que je dois vous dire? Et je crois que j'ai trouvé. Je vais vous donner des nouvelles du château dans lequel on est pour vous dire comment ça marche en fait. Parce que maintenant c'est bon, j'ai toutes les cases. Je traîne avec eux. Ouais. Eux, ils me parlent comme à un des leurs. Moi, je suis une taupe en fait. Tu vois. Et en gros, je disais, voilà, je vous le dis, on a compris qu'on était 1% et que vous êtes 99%. Et le seul moyen de gagner contre vous, c'est un battle royal en fait. Et dans battle royal, tu vas pas taper les 99 autres personnes, tu peux pas. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde s'entretue pendant que toi, t'es derrière un buisson.
Ouais.
Tu vois. Et donc, en gros, c'est ça. C'est que tu dis, les gens en place, dont maintenant je fais partie, je vous le dis, parce qu'il est vraiment, ça se voit maintenant. Là, j'y suis, quoi. C'est qu'en fait, on va aller voir un pauvre, on va dire ça à cause d'un arabe. On va aller voir un arabe, on va lui dire, regarde lui là-bas, il t'aime pas. On va aller voir un vieux, on va dire, regarde les jeunes, comment ils te remplacent. On va voir les jeunes, on dit, mais les vieux, tu payes leur retraite. Tu vois. Et on fait ça. Et après, vous vous tapez.
Ouais.
Et nous, on est derrière un buisson. Ouais, voilà, purge. C'est un battle royal. Nous, on est derrière un buisson, comme ça. Et de temps en temps, on se lève, on en tue deux autres, papa. Et à la fin, on est encore 1%. Parce que ce qui est fou, c'est de te dire, les gens en place, c'est pas logique. On sait qu'ils sont 1%. On te dit, les mecs qui contrôlent tout sont que 1%. Tu fais, mais on peut, pourquoi on les mêle pas à 99? Pourquoi on n'y va pas à 99? Si on les défonce, on les défonce. Parce qu'on n'a pas le temps, on se défonce entre nous.
C'est ce que, ouais. j'ai jamais compris, le côté, tu sais, quand les cheminots sont en grève, par exemple, il y a souvent genre, oui, mais ils ont des avantages. Oui, ouais. Mais il y a ça. Oui, mais il y a ça. Et en fait, au lieu de dire, cool, ils ont des avantages, on peut avoir des avantages, il y a des gens qui insufflent le côté, ils pointent du doigt les avantages de certains pour diviser les autres avec ceux qui n'ont pas d'avantages. Et je trouvais cette technique hyper vicieuse parce que je me dis, bah non, ils devraient dire, bah, ils ont ces avantages, donc tout le monde devrait avoir ces avantages. Et c'est ça qui, ça tirait les choses vers le haut, plutôt que de dire, bah non, il y en a qui sont en bas, donc on tire tout le monde vers le bas au terme d'avantages. Et en fait, ça justifie les gens qui n'ont pas les avantages de rendre jaloux les gens qui ont les avantages. Et ça oppose deux personnes qui combattent pour la même volonté du bonheur, en fait. Et je trouvais ça mais tellement vicieux. Je me dis, mais c'est dingue.
Mais moi, ce que je peux reprocher aux cheminots, c'est de ne pas être assez pédagogue. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve que quand tu es sur ton quai, que tu n'as pas de train, il faudrait qu'il y ait un mec qui t'explique pourquoi tu n'as pas de train. Et souvent, tu sais pas pourquoi il n'y a pas de train. Et quand tu les vois à la télé, ils te font une explication. Non, parce qu'en fait, le SCUP, qui nous a prélevé les 6% en 1938, ça n'a pas changé. Et tu comprends rien à ce qui se passe. Et tu dis, OK, mais c'est...
Mais après,
tu
as 3 heures de débat, ou déjà le titre du débat.
Ouais, avec des gens après, qui se coupent la parole et tout.
Les cheminots, trop d'avantages.
Oui, voilà, c'est ça.
Les cheminots, c'est grave.
Les cheminots, voilà, c'est exactement ça. Donc déjà, le débat, il est... Tu vois,
clair, mais
le voile,
même
un problème.
Les chefs de syndicat, s'ils sont pas
le
clairs.
Le voile, un problème. C'est direct, ouais, c'est direct. Grave, c'est dramatique d'un coup.
Ouais, donc la seule information.
Demain, tous
voilés. Mais je suis d'accord, faudrait de la pédagogie. Ouais, c'est ça. Il faudrait de la pédagogie. Mais
oui,
c'est, pour moi, c'est pas ceux qui sont en galère de faire de la pédagogie. C'est les médias devraient dire la situation est inacceptable pour les cheminots.
Non, mais
ils peuvent pas.
Je trouve que quand on est dans une gare, on n'a pas assez accès à une discussion avec des gens qui font la grève.
Ouais, c'est vrai.
Et j'aimerais bien discuter.
Des grévistes qui nous expliquent.
Exactement.
Mais je crois qu'ils arrivent des fois avec des papiers. Hein, et
ouais,
moi, je suis là,
papiers,
genre, ouais, j'ai
pas
le temps.
Je capte rien, j'ai déjà essayé de lire, je suis là.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots sur une feuille.
Donc, il faudrait leur dire, faites appel à des auteurs. Si vous voulez, on peut vous rendre service.
T'imagines, il y a une alliance de communication, de marketing de grève.
Avec des vannes de grève. Ouais. Ça, c'est bon, ça.
Je veux ça, genre, putain, vivement la prochaine grève, parce qu'on vraiment tape des barres, quand même.
J'adore quand il y a des grèves. Non, mais ça se voit un peu, parce que dès qu'ils arrivent un peu à communiquer, ou dès qu'il y a un truc, tu vois, là, les précédentes grèves. Donc, je parle de celle de 2019, puisque peut-être il y en aura eu depuis, entre le moment où on parle et le moment où je crois qu'il va y en avoir, là. Mais celle de 2019, tu sentais qu'ils avaient un peu du mal, quand même, à trouver des gens pas d'accord avec eux. C'est qu'il y avait une telle défiance envers le gouvernement
carrément.
Que quand ils allaient dans les bus en disant « Alors, c'est la galère !» Ils faisaient exprès, ils allaient voir la petite vieille où ils disaient « Elle, elle va y aller, elle va leur mettre une béquille. » Elle fait « Non, je pense que c'est pas grave, on est un peu serré dans le bus, mais c'est quand même important, là. C'est vrai qu'ils sont en galère. »
Il y a eu ça, il y a eu cette compréhension populaire, c'est vrai.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de comprendre. Hein. Comme les Gilets jaunes, il y a plein de gens qui étaient capables de comprendre.
Ouais.
C'est juste qu'il y a certains moments où ceux qui expliquent, ce sont ceux qui ont la parole et le micro, et donc ils t'expliquent ce qu'ils veulent.
Exactement. Ouais. Qu'est-ce que c'est que pasquinade, Haroun? Qu'est-ce qu'une pasquinade?
Qu'est-ce qu'une pasquinade? Ah, je peux te faire un cours là-dessus. Une pasquinade, c'est un ancien mot pour dire faire des blagues. C'est un ancien mot pour dire une satire.
Une satire. C'est un truc un peu comique. C'est quand même un...
Voilà, ça vient de Pasquin. Et le Pasquin, c'était le valet dans les pièces de théâtre qui n'a pas un rôle très important, mais qui vient pour détendre l'atmosphère et faire des blagues. Donc,
c'est un peu moi, quoi.
C'est vrai.
C'est ça.
Moi, je tends l'atmosphère, toi, tu la détends.
Voilà. Mais en gros, il n'a pas beaucoup de responsabilités dans la pièce, mais on aime bien le voir. Le Pasquin, c'est ça, donc il fait le bon mot, etc. Ça vient de Pasquino, et Pasquino, c'est une statue qui est à Rome, qui est encore à Rome.
Et c'est d'origine italienne.
Bah ouais, mais c'est complètement
c'est dingue.
Mec, c'est ouf, c'est ton arrière-grand-père dont on parle.
Et sur cette statue, il y a des gens qui mettent des mots marrants pour de la satire, que ça soit politique ou pas. Donc les gens écrivent des mots satiriques sur cette statue qui est sur une place qui s'appelle la place Pasquino à Rome. C'est entre guillemets traditionnel. Et c'était de la critique à la base anonyme pour critiquer le gouvernement et Vatican. Et je cherchais un mot français, franchouillard, pour remplacer stand-up, parce que stand-up, ça ne me correspondait pas tout à fait. Il y avait un truc qui m'allait pas dans le terme stand-up. Déjà parce que en anglais on dit stand-up comedy, parce que stand-up ça veut dire être debout ou se lever.
C'est une chanson de.
Il y a le stand-up paddle, ça m'allait pas non plus. et j'avais envie aussi de réaffirmer une espèce d'humour français qui n'est jamais mort, parce que je suis tombé sur des vidéos de Robert Lamoureux.
Oui, c'est vrai, l'inventeur du stand-up en France.
1950, hein. C'est encore en noir et blanc.
Juste après Lenny Bruce, ouais.
Il parle au public, il fait exactement ce qu'on fait nous. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, on s'en foutait que ça s'appelle stand-up à l'époque. Donc, Pasquinade, c'était le fait de faire des blagues et c'est devenu maintenant un site internet. Pasquinade.fr.
Alors, qu'est-ce que c'est Pasquinade.fr? Dis-nous. Parce que ça, en fait, ce que j'aime chez toi, c'est que t'as une vraie quête d'autonomie, de casser un peu les schémas aujourd'hui de il faut un producteur, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Là, maintenant, t'es en quête d'autonomie totale dans la création et la créativité.
Oui, alors, oui, en fait, c'est de l'autonomie. Et en même temps, c'est pas l'autonomie, parce que j'essaie de mutualiser tout ça. C'est une quête. Enfin, d'émancipation, je dirais même.
D'émancipation, ouais. C'est plus ça que l'autonomie, c'est l'émancipation, ouais.
Donc, le site propose d'accueillir des vidéos des humoristes qui ont...
Connus, pas connus,
qui ont un propos, quand même. L'idée, c'est quand même qu'il y ait quelque chose de... Il y a un angle, une façon de proposer quelque chose.
Donc, il y a quand même un éditorialiste. T'es édito, tu fais l'édito un peu.
J'essaie de regarder un peu ce qui se fait. J'essaie de mettre de côté, est-ce que ça me fait rire ou pas rire? J'essaie plutôt de me dire, est-ce que la personne a des idées? Et est-ce que on peut l'aider à aller à faire valoir ses idées ou à s'exprimer, quoi?
Non, mais il y a des humoristes comme Adib Al-Khalidé qu'on peut voir.
Oui.
Adib qu'on adore.
Exceptionnel. On l'adore.
Et il faudrait que vous l'invitiez d'ailleurs.
Il est totalement invité, juste qu'il n'est pas en France pour le moment.
C'est compliqué pour lui de venir. Il y a deux, trois trucs qui empêchent les gens de.
Ouais, mais ça, c'est parce qu'il ne veut pas faire d'efforts. Mais c'est toujours les mêmes qui font pas d'efforts d'ailleurs.
Les Québécois.
Exactement. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a plein d'humoristes qui ne sont pas assez connus à mon goût, mais qui sont assez forts à mon goût pour diffuser leur contenu. Ils n'ont pas les moyens de diffuser ce contenu-là. Sans passer par YouTube, en essayant de monétiser, en mettant de la pub au début, à la fin, au milieu. Et pour ça, il faut faire des milliers de vues. Et parfois, t'es un peu perdu dans les algorithmes. Moi, tout ce système commence à vraiment me fatiguer. Le système des algorithmes et des réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai voulu proposer quelque chose pour qu'ils puissent diffuser soit au chapeau, soit en payant, comme ils veulent, en fait. Et le site propose ça. Et
donc, du coup, au chapeau, c'est-à-dire que tu regardes le contenu.
Et tu mets au chapeau si tu as envie d'encourager l'artiste.
Moi, j'avais pensé à un concept, c'était de couper à la moitié.
Ouais, alors, il y a plein de choses qui sont envisagées. Et j'espère qu'on arrivera à faire plein de façons de faire.
Je me disais, c'est trop cool si tu vois, tu dis, bah, écoute, la première moitié, c'est un spectacle d'une heure, la première moitié est gratuite. Si tu veux voir la deuxième moitié, paye.
Ben, j'ai fait en trois parties. Le dernier truc que j'ai posté, je l'ai fait en trois parties. Il y a une partie gratuite et deux autres qui sont...
Ok, ouais, c'est le même principe. Okay.
Ouais.
Donc, si je comprends bien, tu aides des jeunes humoristes et même des humoristes un peu plus confirmés à filmer leur contenu. Tu les mets sur le site.
Ouais.
Et ensuite, quelqu'un qui aime... Par exemple, je suis un jeune humoriste, j'ai une communauté de 1000 personnes. Je peux dire aux gens, à mes 1000 personnes sur Instagram, je dis, bah, j'ai fait ce sketch. Oui. Si vous voulez me soutenir, vous allez sur pasquinade.fr et vous regardez mon contenu, vous kiffez, vous le partagez si vous voulez, comme ça les gens pourront y avoir accès. Et en plus, vous pouvez mettre au chapeau et me soutenir directement.
Ouais, c'est ça.
Bah, c'est chambé.
Oui, alors, avec le fait aussi qu'on met le lien vers les billetteries, parce que l'idée, c'est que quand même, je pars du principe que nous, notre modèle économique d'humoriste, c'est la scène quand même. Ouais. Donc, il y a ça aussi qui est important pour moi. Et l'autre truc, c'est qu'un jeune humoriste, pas forcément jeune d'ailleurs, mais un humoriste qui a besoin de ça.
Évidemment.
L'idée, c'est qu'il mette d'abord ses vidéos au chapeau, que les gens fassent connaissance avec lui, pour qu'un jour, quand il a envie de mettre son spectacle, il puisse mettre son spectacle en payant.
Ouais.
Et que ce soit intéressant pour lui financièrement, la capta. Que j'ai pas de velléité à produire quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut, mais qu'il ait la possibilité de diffuser sa capta et que les gens le connaissent déjà d'avant par des vidéos en chapeau, que ça se fasse un effet boule de neige, et que ça libère surtout une espèce de pression qui est que il y a les gros humoristes qui peuvent avoir accès à Canal, Netflix, Amazon, etc., et il y a les autres qui ont accès juste à YouTube perdu dans les algorithmes. Là, il y a une espèce d'entre-deux.
Tu crées une classe moyenne, en fait.
Ouais, exactement. Bon, après, je suis très content s'il y a des gros humoristes qui veulent venir aussi sur Pasquinade. Mais l'idée étant de s'émanciper de plein de plateformes qui fixent leurs lois ou des réseaux sociaux qui fixent leurs lois aussi avec leurs algorithmes, etc.
D'accord. Ok, cool.
Et tu communiques les chiffres ou pas du tout?
Les chiffres de ce que gagnent les humoristes?
De combien de gens ont le regardé?
Non, c'est tous les vues, les choses
comme ça. À eux, oui.
À eux, mais au public,
oui.
Non?
Non, pas au public. Alors, j'ai pas envie de communiquer au public, j'ai pas envie de mettre de commentaires non plus. Parce que je pense que...
Ou même au global, je veux dire, une déclaration globale de dire sur Pasquinade, déjà, tant de vues cumulées.
Peut-être qu'un jour, on le fera. Bien. Pour l'instant, je trouve... Enfin, j'ai pas trouvé ça intéressant jusqu'ici. On l'a...
Bah, au moins pour un, ouais. Au moins pour un communiqué de presse. Ça, à un moment, si tu commences à avoir des chiffres peut-être, impressionnants, ouais. De l'envoyer à la presse en disant
si.
Quel est ce site
peut-être qu'on
qui
fera.
A atteint déjà les 300 millions de vues avec des humoristes.
Voilà, ouais, on croise les doigts. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait, non, parce que je trouve qu'on juge par le nombre de vues d'une vidéo, la qualité d'une vidéo sur les réseaux sociaux, notamment. Ce qui m'agace aussi, parce qu'il y a des vidéos qui sont peu vues sur Pasquinade, mais avec des gens qui sont très volontaires pour donner au chapeau.
Ouais.
Et donc, le ratio est totalement différent qu'une vidéo qui va faire beaucoup
t'auras
de vues.
Tu auras 100 vues, alors que sur YouTube, tu gagnerais à peu près, on va dire, 12 euros. Là, tu peux gagner 100 euros avec 30 vues, quoi.
Il y a cet effet-là, ouais.
Mais c'est bien, ouais, donc ouais, c'est positif. Hein.
Ouais. Il y a des gens, il y a des humoristes ou des groupes, parce que je pense à Dava, qui sont des mecs qui me font beaucoup rire.
Dava, c'est Sacha et...
Ouais, c'est ça.
Sacha Béard et...
Il y a des gens qui ont des publics très engagés, en fait. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui peuvent vivre avec un public restreint, mais qui est tellement volontaire et qui a tellement envie de les défendre que ça peut très bien fonctionner sans forcément faire des milliers de vues.
Et on ne peut pas créer une sorte de système d'abonnement aussi. Par exemple, tu as un jeune humoriste que tu aimerais soutenir, tu lui dis, je te donne, au lieu de te donner une fois,
comme
tu dis, je te donne
un Tipeee,
comme
ou
un Tipeee mais spécial Pasquinade, si. 3 euros par mois ou 10 euros par mois. Comme ça, le gars, il se crée, il se dit, voilà, il va commencer à créer une communauté.
L'idée, c'est ça, par la suite. Pour l'instant, on n'en est pas là, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais l'idée, c'est que tu suives certains humoristes.
D'accord.
Donc, il y a des gens que tu préfères et que tu as envie de les suivre. Et quand tu donnes un certain montant, ils te redonnent leur vidéo, accès à leur vidéo gratuitement. Quoi.
D'accord.
Voilà, après, on verra si c'est un abonnement ou pas. Moi, je ne suis pas fan de l'abonnement, parce que j'ai l'impression qu'on en a trop.
Oui.
Il s'additionne.
Oui, mais les Tipeee, c'est autre chose parce que c'est direct à un artiste. Moi, il y a plein d'artistes que je fais sur YouTube en Tipeee et je leur donne 5, 10 balles par mois et j'aime bien parce qu'ils me fournissent un contenu et tu vois, et ça,
bien
je préfère.
Sûr. Bien sûr. Alors, dans ce cas, je trouve qu'il faut lui donner une fin à ce truc.
D'accord.
Parce qu'il y a plein d'abonnements que tu gardes parce que tu as la flemme des abonnés et il y a des trucs.
Je vois ce que tu veux dire.
Il y a des trucs qui parfois.
Oui, d'ailleurs, la démarche plus honnête sur Tipeee, c'est qu'il y en a qui ne se font payer qu'à la sortie d'une vidéo.
Ah,
voilà.
Au lieu de dire je veux être payé tous les mois, en gros, c'est tu dis, mec, je m'engage à la prochaine vidéo que tu sors à te donner tant. Ce qui donne une visibilité. Ce qui sait qu'à la prochaine vidéo, il y a 1000 personnes qui ont déclaré en moyenne 3 euros.
Et tu sais qu'il y a 3000 euros qui vont arriver.
Ça, c'est chambé.
Voilà, ça.
Ça, c'est super.
Tu as cette option. Tu peux avoir soit par mois, soit par vidéo sortie.
Parce qu'il ne faut pas que tu aies la pression, parce qu'il y a des gens qui t'ont donné un abonnement. Ouais. Il faut
évidemment
que tu sois en pression de sortir une vidéo.
Tu deviens la télé après.
Et du coup, c'est que de la captation de scène ou il y a d'autres.
Non, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses.
Dava, j'ai l'impression que c'était pas de la scène.
Non, voilà, eux, ils ont mis une vidéo. Non, plusieurs d'ailleurs. Et c'est pas de la scène. Il y a Chant de Nouveau qui avait fait un pilote de programme qui n'avait pas été accepté par la télé. Il l'a mis aussi. Il l'avait sur YouTube.
Comment ça s'appelle
Le Petit Débat, je crois.
Ouais.
Oui, il m'en avait parlé.
On a tous entendu parler récemment ce scandale des. Papers. Oui, c'est bizarre comme vous prononcez.
Charles Nouveau, ouais, super.
Et c'est les enfants
il interviewe trois gosses sur des sujets avec des montages et leurs réflexions.
C'est fou que ça n'ait pas été pris parce que c'était une super bonne idée, ça.
Mais moi, après, je lève la voix, le mec est venu. Je suis énervé par des programmes qui ne sont pas pris par la télé. Je suis vraiment. Je trouve que les choix faits par certaines chaînes. Parce que t'as une personne en
fais
place.
Fais gaffe,
parce que
nous, on est programmes pris, donc fais gaffe à ce que tu vas dire.
Ouais, mais.
Tu vois les programmes qui sont pris, c'est de la merde.
Non.
Les trucs qu'on fait depuis 10 ans, merde. Désolé.
Non, pas du tout. Je trouve qu'il y a des programmes super qui sont pris, mais il y a des programmes super qui sont pas pris. Et je suis impressionné par le nombre de chaînes qu'il y a et le fait que ces gens-là ne trouvent pas d'oreille, quoi. Le problème étant de la prise de risque. Qui est destiné à prendre des risques dans la diffusion, quoi.
Bah après, je peux pas. Je vais pas faire le mec qui défend sa paroisse, mais par exemple, Canal prend énormément de risques. Pour moi, avec tous les programmes qu'on a fait, à chaque fois, ils ont pris des risques.
Oui, ok.
Ouais, en fait, là, ce qui est bizarre, mais je te suis, mais je pense que la réponse n'est pas claire. Parce que moi aussi, je vois des fois des pilotes de trucs, je suis là, mais ça n'a pas de sens que ça n'ait pas été pris.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même si tu fais une commande, t'écris un truc, on te dit bah.
Ah,
non.
Mais là, c'était une commande, Charles.
Non, je suis pas sûr.
Okay.
Mais si tu veux. La question, c'est à quel point tu peux libérer ta création quand elle n'est pas prise, quoi. ou aller voir d'autres chaînes. Et dans ce cas-là, ça manque de chaînes qui prennent des risques.
Ça, c'est le cas le plus relou. Quand la chaîne te paye pour un truc qu'elle ne diffuse pas, mais que c'est à elle,
tu vois. Est-ce que Canal est trop seul dans la. Dans,
non, il y a
France
TV Slash qui vraiment innove beaucoup, tu vois.
Le truc avec trois enfants qui réagissent sur des sujets de société, c'était ça le truc.
Ouais, c'est ça.
Mais non, mais moi, comme a dit l'idée, j'étais là, c'est sûr que ça va être pris, ça.
Allez voir sur pasquinade.fr, du coup. Allez voir. Ouais. Soutenez le projet de Charles.
Ouais, ouais, mais enfin, même, tu vois, si tu veux, même quand je vois Dava, je trouve qu'il y a une place en télé aussi. Dans
mais après, ça, Dava, c'est une autre. Ouais, mais Dava, je trouve que c'est une autre place. C'est-à-dire que là, par contre, sur Dava,
oui, tout à fait.
Pour moi, tu dis ça il y a 20 ans sur Canal, c'était le hit, c'est les déchiens.
Bien
et
sûr, c'est ça, c'est
là, maintenant,
c'est
par contre,
exactement
tu dis,
quand je vois la place de Dava.
Et ben, c'est ça qui me dérange.
Ça, ça manque maintenant.
C'est que je ne trouve plus de programme à la télé.
Il n'y a plus de challenger.
Je me dis, waouh, truc de ouf, le risque qu'ils ont pris. Et même si ça ne te plaît pas, tu te dis quand même fort.
Genre, type Edouard Baird, Michel Muller, tous ces choses-là.
Ouais,
un truc un peu étrange.
Parce que c'est devenu Internet, c'est devenu toi, en fait, le challenger. Parce que c'est Pasquinade, le challenger. Parce qu'en télé, maintenant, il n'y a plus de chaîne qui challenge. Avant, Canal arrivait, il disait, mais comment on se démarque? On va mettre du porno, du foot et que des fous. Tu vois.
C'est vrai.
Bah maintenant ils disent ils veulent pas se démarquer, ils veulent garder leur position, mais il y a plus de chaîne en face. Donc pour moi là, c'est pour ça que la télé descend en créativité et en originalité et que c'est Internet qui récupère le truc. C'est parce que maintenant c'est Internet le challenger de la télé, c'est plus la télé.
Et Pasquinade a été créé à cause de ça.
Ouais.
Donc
grâce à ça.
Oui, mais
pour ça.
Mais si tu veux,
par-delà
notamment
ça.
Notamment grâce à ça.
En fait, j'ai voulu créer ça parce que il y avait pas ce que je voulais. À la télé et quand je cherche des humoristes, même sur Netflix, je galère à trouver des humoristes, je galère à trouver des trucs qui me plaisent et tout et j'avais envie d'avoir un endroit où accueillir des humoristes qui sont aussi challengers quoi, qui nous
surtout que Dava c'est étonnant parce que ça fait 10 ans qu'ils existent ces gars, même plus. Si ça fait 10 ans qu'ils sont en position de, de traviole par rapport au reste. Mais
ils ont une vraie hype, hein. Ils ont une vraie hype.
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un cœur, une fanbase hyper solide qui est prête à payer, etc. C'est parce qu'en fait, ils répondent à un besoin que pas mal de gens ont dans une niche et qui n'est jamais satisfait. Quand tu regardes Dava, tu fais « Ah bah voilà, enfin !» Ça fait un peu ça avec Yacine Dedo, par exemple, les chaussettes.
Ouais, tout à fait.
C'est aussi pour ça qu'ils ont des gens qui sont prêts à payer, alors qu'ils vont le mettre sur Internet, tu vois. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ils vont dire « Bah, pourquoi je payerais? Ça va être gratuitement sur Internet. » Mais parce qu'en fait, tu dis « Mais mec, merci de répondre enfin à ma demande.
Ah » ouais.
Et dans ma tête, Internet, ça allait être ça. Et ça n'a jamais été ça. C'est ça, un peu. Mais dans ma tête, ça allait être le début de tout. Pour moi, tout allait s'effondrer. Hein. La télé, tout va disparaître, parce que chacun va pouvoir, on va pouvoir être 30 à dire, mais moi, je suis prêt à payer 1000 balles par an pour regarder ce truc qui est exactement ce que je veux. Le mec aura 30 000 balles par an. Voilà, il aura les sous qu'il faut. Moi, j'aurai mon programme. Et en fait, non, ça s'est quand même redevenu un gros tube. Quoi.
Ça a été bouffé par l'ergonomie. Quoi.
Ouais.
On veut des trucs hyper ergonomiques et tout. Et c'est d'ailleurs la grosse difficulté quand tu crées un truc comme Pasquinade, c'est que tu te bats pour essayer d'expliquer très simplement et de façon très ergonomique des concepts un peu plus complexes que la normale.
Mais il y a un truc aussi qui est fort avec ton parcours, c'est que YouTube, quand même, t'a amené un boost énorme, même Facebook, d'accord Les GAFA t'ont amené une visibilité énorme sur la viralité de tes sketchs. Toi, le Jamel Comedy Club a été un truc super, a été énormément vu, mais ton spectacle sur Internet, que t'as mis sur YouTube, d'accord, peut voir d'ailleurs.
Celui-là, je l'ai pas mis sur YouTube. Le spectacle Internet, je l'ai pas
mis sur
YouTube.
Il était au chapeau, c'est ça. Mais je l'avais vu, alors je l'avais vu là.
Ouais.
Mais
tous les teasers et tous les sketchs autour étaient sur Internet.
Oui, bien sûr.
Voilà, ce que j'ai vu, il y avait des choses quand même que j'ai vu sur YouTube.
Il y avait pas mal
d'élections.
C'est ça, c'est le spectacle d'élections qui a fait 6-7 millions de vues, je crois, c'est ça. 8 peut-être.
Oui, je crois que c'est ça.
Je crois que c'est 8. Donc c'est énorme en fait, ça t'a quand même apporté un boost, tu vois. Donc est-ce que c'est pas. Maintenant que tu as cette énergie, tu l'amènes chez Pasquinade, ou est-ce que c'est quand même on peut naître sur Pasquinade et directement éviter YouTube?
Pour l'instant, en tout cas, je pense pas que tu puisses naître sur Pasquinade.
Non, mais tu vois ce que je veux dire,
c'est trop confidentiel.
Buzz, ça existe. Par exemple, pour moi, le buzz, c'est pas une question d'être disponible sur YouTube. C'est une question de les gens disent, il faut que tu vois ce truc-là. C'est où? C'est sur
Pasquinade.
Non, parce qu'il est que sur Pasquinade. Ah bon, il a fait
le site. Je pense pas qu'on soit un site qui va créer des buzz. On n'est pas viraux. Enfin, le site n'est pas viral. Clairement, ce sera pas viral, mais c'est de la diffusion, quoi. Si tu mets un programme sur Netflix, sauf si Netflix te pousse à fond, tu vas pas faire un, tu vas faire un buzz. Tu vois, je veux dire, humoriste du monde qui est sur Netflix, tu vas pas faire.
Tania Shirley ont énormément de gens qui leur écrivent dans le monde entier.
Est-ce que c'est vraiment ça leur boost ou...
Ah ouais vraiment. Bah, ah ouais, par contre, les gens qui écrivent du Brésil ou je pense que c'est pas.
Oui, mais oui. Ce sera jamais aussi.
C'est pas ça qui va te remplir ta salle, je pense.
Ouais, pas un boost comme faire une vidéo montreuse sur YouTube qui fait 5 millions de vues.
Une vidéo montreuse, voilà, exactement.
D'accord.
Non, en fait, l'endroit du buzz, ça reste quand même YouTube.
Il faut qu'il y ait une viralité gratuite et truc qui se passe à fond et des gens qui payent pas.
Inès Reg, si elle dit je vais mettre des paillettes dans les yeux, mais sur Netflix, tu vois, les gens vont pas aller voir quelqu'un qu'ils connaissent pas. Tu sais, faut quand même que ça tombe tout cru un peu dessus.
C'est vrai. Ouais,
d'accord. Dans le média traditionnel. Hein,
faut que ce soit un truc actuel. Faut que ce soit un truc qui où il peut y avoir de la viralité.
Ok, je vois.
Le humoriste du monde, les gens pouvaient pas se le partager. Tu vois, c'est pas une fonction qui existe dans Netflix de dire partager à machin. Tu vois, si on prend l'exemple d'Inès Reg, qui a un gros buzz, quand est-ce que tu mets des paillettes dans ma vie, ça? C'est parce que les gens se l'ont montré.
Dans les yeux, pour le coup, c'est yeux. Hyper pas bon pour les yeux.
C'est pas bon pour les yeux, les paillettes?
Bah, ça brûle, je crois. Et puis, après, il faut aller voir un oculiste, et puis c'est ouf, quoi.
Ah, merde.
Mais je crois que c'est dans la vie, quand même, qu'elle dit.
Donc, c'est dans la vie, c'est ça, parce qu'il y a des yeux, je me suis trompé. Paillettes dans les yeux, c'est un peu une agression, en fait.
Mais j'ai pas mettre des paillettes dans les yeux, moi, c'est le titre de ma sextape.
Ah ouais?
Qui est sur pasquinade.fr, d'ailleurs.
Est-ce que je peux mettre mes sextapes sur Pascal? Parce que j'en parle beaucoup dans les émissions. Je pense qu'il y a un buzz. Les gens veulent voir mes sextapes.
C'est la ligne éditoriale.
C'est que moi.
Si c'est vraiment drôle.
C'est que moi qui.
C'est du cul, mais c'est drôle.
C'est moi qui décris mes sextapes. Tu vois, comme ça, c'est pas porno.
Pasquinade, c'est aussi des soirées.
C'est aussi des plateaux.
C'est un plateau d'humour. Vous allez capter. C'est un plateau d'humour qu'on va capter.
Ouais, voilà, et on va mettre.
Donc il y a plein d'artistes de nouvelle vague.
Ouais.
Nouveaux talents, de comment on appelle ça au Québec?
La relève.
La relève.
La relève. La relève de l'humour. Non, mais des artistes qui sont, pour moi, pas la relève, qui sont là, mais qui ont besoin d'être vus, quoi. Mm-hmm. Avec lesquels on va faire un plateau et on va capter et puis on va diffuser. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres plateaux, qu'on pourra capter d'autres plateaux qui sont pas faits par moi, quoi. En fait, l'idée, c'est que là, pour l'instant, moi, j'insuffle un peu le truc. Mais j'espère qu'à un moment, ça deviendra un outil et qu'il y aura des propositions extérieures.
Les gens vont produire leur contenu et les mettre directement dessus.
Ouais, c'est ça. Et qu'ils soient un peu libres là-dessus. Pour diffuser ce qu'ils veulent, quoi.
C'est une super philosophie.
Ah bah merci beaucoup.
Je la trouve hyper saine et hyper importante. Et je trouve que là, dans le stand-up et dans le milieu artistique, on a été souvent... l'artiste est en bout de chaîne alors qu'il est initiateur de projet. Et là, avec ton travail, avec celui de Shirley, avec celui de Kev Adams, avec, tu vois, il y a des gens qui remettent l'artiste à la création des comedy clubs, des choses comme ça. Et je trouve que les artistes deviennent... non pas des producteurs, mais ils mettent en valeur en fait toute la génération qui arrive. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'il y a une sorte d'entraide en disant nous on va ouvrir la porte comme Jamel l'a fait avec le Jamel Comedy Club, tu vois. Mais non, il a ouvert la porte, il l'a tenue pour des centaines de gens, quoi.
Je crois qu'il n'y a pas un humoriste ici.
Tous les trois, par exemple, on a déjà payé une partie de loyer grâce à Jamel. Tu vois, une partie de notre loyer grâce à Jamel. Donc, je pense que c'est important de se tirer vers le haut en permanence et d'arriver à des cercles d'autonomie.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est ce qu'on veut faire, d'ailleurs, nous, avec une bonne boutique, ce que tu fais avec Pasquinade. Ouais, ouais. Et je trouve ça intéressant. Si tu avais un conseil à donner à un jeune humoriste qui commence là, ce serait lequel? Même à toi-même, un conseil à toi-même, genre il y a 10 piges quand tu as commencé.
Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Déjà, j'aimerais me dire que ça va être long.
Ouais.
Prévenir quand même que ça va être long, qu'il faut prendre son mal en patience. Donc, l'autre truc, c'est... moi, personnellement, je trouve qu'il ne faut pas lâcher son taf annexe trop vite.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y en a qui lâchent trop vite. Et c'est vraiment une galère.
Après, tu fais des choix qui te poussent. Ça te pousse à te faire des choix que tu n'aimes pas vraiment.
Exactement. Tu es obligé de faire des choses qui te rémunèrent et que tu n'as pas envie de faire artistiquement. Et moi, ça me plaisait pas du tout ce truc-là. Donc, je dirais ça à un jeune humoriste parce que j'ai lâché assez tard mon taf qui m'apportait des revenus réguliers. Et je pense qu'il faut pas lâcher trop tôt parce que vraiment.
Qu'est-ce que tu faisais comme taf?
Moi, j'étais formateur en impro théâtral dans les entreprises.
Ah, donc c'est cool. Tu étais quand même, dans la transmission.
Ouais, ouais. Mais il y en a qui, je trouve, lâchent trop tôt et. Je trouve pas ça. Je trouve pas que tu sois meilleur parce que tu lâches trop tôt.
Foresti disait ça. Je me rappelle, elle était signée, elle faisait ses spectacles, mais elle était encore graphiste.
Ouais, ouais.
Et en fait, elle a dit non, je lâche pas pour l'instant.
Ben oui, mais ça te force à te lever le matin. Ça te force à kiffer quand tu vas faire des scènes.
C'est vrai.
Et puis tu t'aperçois aussi qu'il y a une vie en dehors des blagues. Et c'est important parce qu'il y en a qui prennent trop à cœur ce qui leur arrive sur scène et il ne faut pas, quoi.
Et c'est tout à fait transposable ce que tu dis à vivre sa passion. On n'est pas que dans l'humour. T'es d'ailleurs, c'est vrai.
Non, et je dirais même que j'espère qu'un jour, on ira vers l'humour amateur.
Ouais.
Comme on fait du théâtre amateur, comme on fait de l'impro amateur dans les MJC ou les centres culturels de partout en France et dans le monde, qu'il y ait des gens qui ont envie de faire de l'humour après le taf, quoi. Et c'est leur kiff et ils n'ont pas envie forcément d'en faire une carrière. Et voilà, comme tu pratiques de la musique, quoi. Et j'espère qu'un jour, ça deviendra aussi ça. Mais voilà, le conseil que j'aurais envie de donner à un jeune humoriste aujourd'hui, c'est trouve-toi un confort financier pour pouvoir vraiment travailler sur ce que t'aimes et prends le temps, quoi.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mais c'est pas facile, hein, parce que quand t'as 20 ans, t'as envie que ça aille vite, quoi.
Bah ouais, t'es impatient de ouf.
Ouais, ouais. Puis surtout, il y a deux écoles. C'est pas pour contrer ton conseil,
non,
c'est intéressant.
Ah non, mais,
parce qu'on entend aussi souvent le conseil inverse.
C'est-à-dire
de gars qui disent, moi, j'ai tout lâché, et c'est parce que j'ai tout lâché et que j'avais plus ce confort que ça m'a motivé pour aller sur les scènes et pour me battre.
Ouais. Ah, moi, j'y crois pas tellement.
J'ai fait K-Ron, ça, mais ça. J'avais un taf. J'ai fait
K-Ron,
ça, mais...
c'est ça, par exemple. K-Ron, il a tout lâché. Ce qu'il a dit, c'est, il n'y a que comme ça que je vais...
Ouais, et en même temps, ouais. Moi, le discours, j'ai tout lâché, je me suis lancé, c'était la galère, machin, il peut avoir fonctionné, mais je pense quand même que...
Non, mais je suis pas en train de...
Non, mais c'est un peu all-in.
C'est pour
c'est
ça, que j'ai,
all-in,
voilà. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, je te dis pas...
C'est-à-dire qu'il y a un peu un storytelling
autour
de ça.
Surtout, il y a un biais du survivant. Ça veut dire que ouais. T'as que les survivants de cette connerie qui...
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout lâché, qui ont de tout reprendre.
Ouais.
Personnellement, j'ai tout lâché la voie traditionnelle, mais c'était à base de... Je faisais des déménagements, je nettoyais des bagnoles, des chiottes, je gagnais de l'oseille, quoi. Je m'assurais ma sûreté financière, mais à un moment donné...
Moi, j'ai tout lâché et j'ai eu le chômage. Mais moi, j'étais prêt à tout lâcher. C'est-à-dire que quand je suis allé négocier mon chômage de rupture conventionnelle, j'ai dit de toute façon, je m'en vais, c'est sûr.
Non, mais quoi qu'il arrive.
Et j'ai eu la chance de l'avoir, donc ça m'a donné un an de battement
d'accord,
où j'avais
ouais.
un chômage. Quoi.
En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que quand tu as 20 ans et que tu veux devenir humoriste, c'est bien de continuer à rester au contact de
la vraie vie.
La vraie vie.
Ouais. Ok.
Parce que.
T'as compris,
y a un
Roman
moment...
Frayssinet ? Il est temps de retourner bosser un peu dans la vraie vie, là.
Éclaté, le gars, il est éclaté.
Non, mais il y a un moment où.
Une émission de Roman Frayssinet par émission.
Non,
émission,
moi, franchement, je sais pas comment j'aurais géré. Et en fait, il y a un moment où je l'ai senti, ce truc, et c'est là où j'ai fait une grosse pause, quoi. Je suis parti en voyage et tout, machin.
Mais et donc là, tu lâches tout.
Bah, là, tu lâches tout.
Parce que pour toi, en fait, c'est ça. C'est, en fait, tu dis la phase où tu commences, c'est bien de garder ta vie, etc.
Oui, moi,
mais
je pense.
Mais il y a un moment
que,
où tu switches.
Je pense qu'il y a un moment, enfin, pour toute la phase où tu commences, où t'as pas encore, tu t'es pas encore trouvé, en fait. Il y a tout un moment où tu te cherches. Il y en a qui se trouvent très vite. Et tu prends l'exemple de Roman, il s'est trouvé.
Mais Roman, à 18 ans, il était trouvé. À 16 ans, il s'est trouvé.
Après, lui, il a fait comme un parcours scolaire, quoi. Il est parti à l'école de l'humour.
Il est parti à l'école de l'humour.
Ouais, bien sûr,
motivé,
bien sûr.
Sa motivation,
mais,
elle est là.
Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne se sont pas encore trouvés, qui ne savent pas exactement. Ils sentent qu'ils ont envie de faire de l'humour, mais ils ne savent pas exactement comment, dans quelle direction et tout. Et ils lâchent trop vite.
Ok. Mais
après,
je comprends.
Et après, ton
c'est comme
travail,
si tu lâchais même... tout pour aller prendre des cours de piano, parce que tu veux être musicien.
C'est un peu ça.
Mais
et
lâche
en fait,
pas
si
tout au moment de tes cours de piano. Prends tes cours.
Tu lâches trop vite pour avoir du temps, mais tu ne sais même pas comment utiliser ce temps, parce que tu ne sais pas dans quelle direction tu vas écrire.
Puis t'es en toupie, hein, quand t'as rien à faire, t'as pas de deadline et que t'es jeune humoriste, t'es en toupie, quand t'as rien à faire, tu peux errer toute la journée.
Il y a cet effet-là, il y a le fait que tu traînes avec des gens qui ont rien à faire toute la journée aussi.
Ouais.
Mais en tout cas, le moment où tu trouves ton style et tu trouves ce que t'as envie de faire, là tu peux donner une direction à ton écriture, donc t'es plus efficace, donc tu sais que si t'écris 2 heures dans la journée, ça va être 2 heures très efficaces.
Et du coup, toi, t'as arrêté à quel moment ? C'est quoi le switch ? Le moment où t'es... Ouais, ça se trouve, tu continues d'ailleurs. Tu n'es plus coach en entreprise.
Non, je n'étais jamais coach, mais c'est formateur. Non, c'est quoi.
Formateur en
coach,
en
c'est
impro.
Vrai. Fais-toi confiance.
Tu étais plus coach
faire.
De vie
ouais.
En mais... développement personnel
à quel
ça
moment
a été
j'ai
quoi
arrêté,
le truc où tu as dit bah là, il faut que j'arrête et que je me professionnalise
Ben, à vrai dire, j'avais déjà mon spectacle et j'ai vraiment arrêté ça au moment de la diffusion de la vidéo du Jamel Comedy Club.
Ok.
C'était ma dernière formation. Et là, j'ai senti que, ouais, les salles allaient se remplir. Donc j'ai senti, je jouais au Beau Saint-Martin, une salle de 70, elle était remplie régulièrement, donc j'avais les moyens de faire un cachet. Et je me suis dit, ok, si je peux faire un cachet, ça veut dire que je peux potentiellement être intermittent, donc je peux envisager quelque chose, me laisser du temps pour écrire, pour peaufiner mon spectacle. Et
t'as été tellement productif en termes de créativité, t'as fait des trucs tout le temps, partout, tu faisais des trucs, des vidéos, on voyait vraiment, t'écrivais énormément.
Ouais, ouais, mais j'ai toujours écrit assez vite par contre.
C'est exceptionnel de faire ça. Enfin, j'ai jamais vu un mec faire, tu vois, t'as lâché un spectacle d'une heure sur les élections que t'as dû tester trois fois, je pense même pas.
Ouais, ouais, j'ai voulu ça parce que j'avais beaucoup de choses à dire, à faire. J'avais cette envie de que ça explose, quoi. J'avais un truc en moi qui avait envie que ça explose.
Fais bah, gaffe, bon, quand même.
Je sais pas comment dire, mais.
C'est tranquille.
Haroun, c'est ça? Fais attention avec ce genre de vocabulaire guerrier.
Est-ce qu'on peut encore parler d'explosion?
Non.
Parce qu'ils ont voulu changer le.
J'ai envie d'embrasser mon dessin, mon destin, tu vois.
Non, mais. Et en fait, j'ai toujours ce truc, mais dès qu'il se passe quelque chose, j'ai envie d'écrire dessus et j'ai la chance d'écrire assez vite.
Est-ce que la société serait un peu ta statue de Pasquino? Sans ouais, laquelle tu as envie d'écrire
ça,
en permanence?
Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Faudrait...
Est-ce que le monde, c'est Rome et tu as besoin de.
T'as trouvé
mettre
ton temps.
Mettre tes satires sur la statue.
C'est
un peu un Pasquino, non, un destin, un ouais, descendant de Pasquino.
Ça, ouais, exactement. Il doit y avoir de ça. Il y a un truc antique en moi. Écoute, franchement, je sais pas. Ça vient et il y a des moments où j'écris frénétiquement et puis à un moment j'ai assez stocké pour en faire quelque chose et je me dis il faut que ça sorte que, et, coup, et surtout il faut que je m'en débarrasse.
En moyenne, tu tournes un spectacle par an depuis 4 ans.
C'est à peu près ça.
Là, il y a le nouveau qui arrive l'année prochaine.
Voilà. Ouais, 2020, j'en avais pas fait.
Ouais, mais de toute façon, personne n'était dispo. On était trop occupés.
Il y avait quoi d'ailleurs ?
Il s'est passé beaucoup de choses en 2020.
Ouais. Je suis resté chez moi pendant 3 mois. J'avais rien à faire.
Non, mais je suis pas trop sorti, moi. Mars, avril, tout ça, j'étais un peu.
Ouais.
1er avril, il n'y a pas eu beaucoup de blagues.
Non, il n'y a pas énormément de blagues. Ils ont dit.
Pas que cette année, c'était pas.
Là, à un moment, je crois qu'il y en a un, il a voulu me faire croire qu'il y avait un virus. Mais je l'ai pas cru.
Non, mais t'as bien fait.
T'écris comment? T'écris de manière
bien.
Frénétique le matin, tu travailles, tu fais, t'as une routine ou c'est au bout dans la chance, t'écris des idées, puis à un moment donné, tu sculptes.
Il y a les deux. Il y a de la collecte d'idées et j'écris le matin. Ouais.
Ah, tu te lèves le matin, tu écris?
Ah oui.
Le matin des artistes ou le vrai matin?
Non, le vrai matin.
Genre vu sur la mer?
Ah, pas du tout.
Non.
Quelle heure?
Vu sur la banlieue.
La banlieue.
Ouais.
Quelle heure le matin?
Je commence, si je suis content si j'arrive à commencer à 9h.
Ah ouais, waouh.
Mais alors sinon, personne c'est 10h. 10h, midi et demi, 10h, 13h, quoi.
Je suis admiratif des gens qui travaillent alors que personne ne les oblige le matin. Je me dis, mais personne ne t'oblige.
Ah ouais.
Mais toi, t'es un élève. Enfin, pour toi, là, le matin est une torture.
Non, mais après, il n'y a pas que moi. Mais y a des gars, des fois, ils me disent, ouais, on se voit demain matin. C'est pour ça que je dis le matin des artistes ou pas? Parce qu'après, je dis, ouais, vers quelle heure? Ils me disent, ouais, 13.
Non, 11h.
Ah non, moi, je veux.
Mais 11h, c'est bien pour toi, 11h ou pas?
11h, ça va.
Tu vas y arriver, mais c'est vachement bien le matin.
Et tu.
Quand tu te lèves tôt, tu redécouvres.
Tu le fais tous les jours? C'est genre une routine ou.
C'est pas. Je peux pas faire tous les jours parce que maintenant, il y a trop de projets à côté qui me monopolisent, mais je me lève, ouais. J'arrive pas à dormir tard. Et. Si je peux faire tous les jours, si j'ai des semaines où je peux faire tous les jours, je suis grave, grave heureux, quoi.
Ok, c'est-à-dire que dans l'idéal, enfin, s'il n'y a pas les autres projets qui viennent te prendre du temps.
Exactement, on va dire, dans l'idéal, je me lève le matin.
La routine, c'est le matin, t'écris pendant
ça.
2 heures.
T'arrives à faire ça?
Ah, j'adore.
Le truc sur lequel on regarde des films et.
J'adore.
T'arrives à travailler là-dessus?
Ah, j'adore. Tasse de thé et mon ordi, du silence, je suis au max. Je suis vraiment heureux, quoi. C'est pour ça que le confinement, vraiment, ça m'a pas du tout pesé.
Il a écrit 4 spectacles pendant le confinement.
Ouais, enfin non, j'ai pas écrit 4 spectacles, j'ai écrit des trucs que je voulais tester. J'ai écrit un petit livre issu de ce spectacle-là. Mais voilà, mais parfois j'ai écrit juste pour m'exercer, hein, à des trucs.
J'ai toujours trouvé ça incroyable, les gens qui se lèvent et qui écrivent. J'ai jamais écrit de ma vie.
Mais je crois pas être drôle, hein. En fait, je vois des gens.
Ah, bah écoute,
t'es quand même
on n'osait pas te le dire.
Ouais, mais je suis technique.
Ça nous soulage que tu le saches.
Non, mais.
En fait,
non,
tu t'en rendais compte depuis le début. Oh putain, ça me fait du bien, Haroun. Mais oui, alors, ça va, t'en as conscience.
Depuis tes débuts, c'est comme ça. Depuis tes débuts, c'est comme ça.
Mais tu sais,
Attends, tu crois pas être drôle, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que.
Au-delà de la blague.
Je vois des gens qui sont vraiment drôles, quoi. Et les gens, ils montent sur scène, ils sont drôles. Ouais, il y a des gens, quand ils racontent leur vie, ils sont drôles. Il y a des gens dans la vie, ils ont des répliques, des, tu vois.
Ouais.
Ils ont des inspirations.
C'est des natures.
Moi, je l'ai pas, quoi.
C'est des natures.
Je l'ai pas, donc je suis obligé de compenser autrement, quoi.
Ouais, mais après, je vois, drôle, mais t'incarnes un petit mec avec des lunettes qui arrive un peu droit avec sa petite veste.
Ouais.
Tu vois, on a envie de faire un crédit. On se dit pas, ce mec va me faire rire, tu vois.
Bah, j'ai besoin de le satisfaire. Mais voilà, mais tout est technique dans ce que.
Mais c'est ça qui est smart, ouais. Parce que justement, ça fait un côté un peu intellectuel décalé, quoi.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que.
Non, mais je vois complètement.
C'est que je suis obligé de beaucoup travailler pour atteindre ce que
Jamel,
d'autres
quoi.
Ont naturellement.
Ah, je suis pas Jamel, c'est pas je rentre dans une pièce. Je suis
non,
pas Jonathan
pas
Cohen,
tout.
Tu vois, Jonathan, il arrive, il fait. Ça les frères.
Je suis pas un bon client pour les émissions de télé.
Ouais. Et même dans peu importe la catégorie, parce que tu vois, c'est même pas une question d'être. Parce que mais Paul Mirabel, il vient, il dit bonjour. Les gens, ils sont pliés. Et je me dis, mais quel avantage incroyable dans la vie.
Bah, maintenant qu'il a une reconnaissance, Paul Mirabel, moi j'ai vu la différence avec 60 l'année dernière. Il passe après Cad Olivier, il fait bonjour. Et les gens, ils sont sympas, ils sont ah, ok. Là, cette année, il refait 60 avec nous. Il fait bonjour. Les gens, ils connaissent. Déjà, ils ont fait ouh, on t'a déjà vu, on sait que t'es marrant.
Ah oui,
il a fait bonjour. Les gens, ils ont pété un câble
ouais,
bonjour.
Mais même allez, tout le temps, moi, depuis l'arrivée de Paul Mirabel, il est arrivé sur un plateau, il dit bonjour. Les gens, ils rigolent. Et tu dis, mais c'est fou. Ça n'empêche pas que derrière, il bosse et tout. Mais tu dis, ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est de dire, moi, si j'arrive et que je dis bonjour, j'ai intérêt à avoir écrit un truc
mais
vraiment rigolo après.
Les gars, on est dans la même situation.
Ouais.
Moi, j'ai jamais été marrant par nature. J'ai jamais arrivé sur scène, j'ai dit, mort de rire.
Ouais.
J'ai dû travailler quatre fois plus pour être drôle. Et
ouais,
encore,
autre...
putain, merde, elle est dure.
Non, mais parce qu'il y a des gens, après, il y a un truc aussi, c'est que j'ai commencé avec des gens qui étaient beaucoup plus marrants que moi, énormément plus marrants que moi, et aujourd'hui...
Ils sont morts, parce que tu les as...
Non.
C'était ça ta stratégie de carrière?
Non, le vrai truc, c'est que j'ai vu des mecs se reposer sur leur vice comical de classique, de dire, ouais, c'est bon, je suis marrant. Et puis petit à petit, en 4-5 ans, devenir moins marrant et tu vois, de dire, ah, en fait, et devenir une sorte de parodie d'eux-mêmes de ce qu'ils connaissaient comme tiroir.
Ouais, ouais.
Après, ils ont raté le métier.
Ouais, 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 y a ce côté-là aussi. Et en tout cas, enfin, ça me va, hein, je suis pas.
Ah non,
je suis pas envieux vis-à-vis des gens marrants, quoi.
Non, mais non, c'est pas ce que je dis juste que tu dis, bah, c'est fou, on ne naît pas égaux devant la vice comica.
C'est clair,
tu vois, il y a un
c'est
truc
sûr.
Où tu te dis, bah.
C'est sûr.
Et c'est même des fois frustrant dans l'autre sens, parce que des fois, il y a des gens, ils sont tellement marrants de nature. Que ça te frustre en disant, mais mec, si tu bossais un peu, si tu écrivais des textes.
Ouais, et je crois qu'en fait, il y a des moments où c'est juste pas compatible, en fait.
Ouais.
Il y a des moments où.
La nature.
Dès que ta nature, tu essaies de la mettre par écrit, tu n'y arrives pas, quoi. Enfin, il doit y avoir cet effet-là chez tout le monde, mais. Bon, après, il y a un truc aussi, c'est que j'essaie de beaucoup lire. Et des trucs pas drôles du tout. Et ça, si je peux donner un conseil à des humoristes qui se lancent, parce que quand t'en parlais tout à l'heure, lire, ça te met des tartes, quoi. Enfin, tu vois, en tant qu'auteur, quand tu lis des livres vraiment bien écrits, tu fais...
T'en as un ou deux à recommander? Un truc qui t'a mis une claque ou deux?
Ah ouais, Romain Gary, La vie devant soi.
Ouais. La vie devant soi de Romain Gary, un classique.
Céline.
Parle-moi de Romain Gary, parle-moi de La vie devant soi de Romain Gary.
Romain Gary, en
donne
fait... Tu lis une page de Romain Gary... Et tu te dis, il est où mon surligneur? Faut que je surligne tout ça.
Ouais.
Et en fait, tu te dis, merde, j'ai trop de trucs à surligner. Et en fait, c'est que un enchaînement de tournures de phrases qui sont tellement bien amenées, tellement bien imagées. C'est un ensemble de punchlines qui te racontent une histoire.
D'ailleurs, sur une bonne boutique, on va mettre la version La vie devant soi surlignée. Elle est pré-surlignée pour les gens.
Voilà, elle est pré-surlignée.
Tout est surligné,
toutes
les pages.
Voilà, tout est biloté. Vous n'avez pas à le faire.
Ouais.
Donc, ça fait un peu mal aux yeux au bout de 16 pages. Mais
il n'est que rose.
Ouais. Un gain de temps incroyable.
Il est surligné entièrement.
Ah, bah oui.
C'est vraiment qu'il n'y a aucun...
Voilà, il est déjà surligné.
Il y a un moment, il y a une phrase qui n'est pas ouf, celle-là, elle n'est pas surlignée. C'est la seule.
Ouais, c'est dingue. C'est rythmiquement, c'est fou. La fin, elle est folle. Mais même, tu lis le truc et tu as l'impression de voir quelqu'un qui te parle et qui rythmiquement t'enchaîne de trucs. Il y a un côté... Bah, tu vois, t'as la fin de ton spectacle où t'enchaînes comme ça. Il y a un côté comme ça dans la lecture que...
Je suis très touché d'être comparé à Romain Gary.
Non, mais
sauf que lui, c'est depuis le début. Tu vois, soit c'est trois dernières phrases.
Lui, c'est tout un livre.
C'est tout un livre, il t'enchaîne.
Non, mais voilà.
Il te met des hits comme ça. Bon,
et à
bon,
ça,
bon.
Quand tu lis Voyage au bout de la nuit de Céline, t'as des trucs comme ça aussi. T'as des phrases qui m'ont.
Et puis quel homme?
Percé dans le cerveau, quoi. Est-ce qu'il faut séparer l'homme de son œuvre? Non, mais ça m'a percé le cerveau. Vraiment, il y a des trucs que j'ai retenus. À un moment, il décrit une femme qui est la femme du bijoutier. Et qui est toujours derrière sa caisse, et il dit, en gros, il décrit, c'est bizarre parce qu'elle est jolie, mais je la trouve pas belle. Il dit, en fait, il dit en une phrase, il dit, c'est une femme qui s'est arrêtée au bord de la beauté. Et je trouve que cette phrase-là, elle exprime plein de gens que tu peux voir, que tu trouves techniquement beaux, mais qui ont un charme qui manque et qui fait que tu te dis, je sais pas pourquoi.
Il n'y a pas le truc, quoi. Il n'y a pas, je sais quoi.
Et cette personne s'est arrêtée au bord de la beauté. Il dit des trucs comme ça. Il dit que la banlieue, c'est là où la ville vient vomir son luxe. Et t'as l'image des quartiers de luxe de Paris et juste après, t'as la banlieue qui crade et tout. Et juste des phrases comme ça qui sont ouf. Il y a des angles. Il dit, ouais, j'étais un... Enfin, je m'arrête là.
Mais
après,
non, mais ça fait super bien parce que moi, je ne lis pas.
Ouais, ouais.
Donc, quand on me donne envie de lire, j'aime bien. Parce que
c'est pendant 14-18, il est à la fête foraine et il dit, le mec qui tenait le stand de tir, il est parti à la guerre. Et je trouve que cette idée, elle est ouf.
Honnêtement.
Elle est ouf. Le gars, il tient un stand de carabine claqué pour aller se faire tirer dessus à vraie balle. Et il est dans toute cette réflexion d'injustice de partir à la guerre. Si, et c'est dingue.
S'il est fuyard ou démissionnaire de la guerre, genre il veut se barrer.
Déserteur.
Il peut se faire. Ouais, comme. Ouais.
Déserteur,
il va se faire fusiller à son tour.
Tout à fait. Et t'as des idées comme ça qui viennent et tu te dis, mais quel. Enfin, c'est du génie de penser à certaines choses ou réussir en une phrase à te retourner le cerveau, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre d'intéressant
Tintin au Congo.
Tintin au Congo.
Faut le remettre
notre
dans son contexte
pays,
historique.
Notre beau pays, la Belgique. Attends, pendant le confinement, j'ai dû lire des trucs sympas.
T'as lu quelque chose, toi, Navo, récemment ou pas? Il y a un livre qui t'a marqué et qui donne le goût de la lecture.
Je lis très, très peu.
Oui, moi. Mais dans ta vie, en général. Parce que moi, je n'attends que ça, d'avoir le goût de la lecture, mais ma pensée n'arrive pas à se focaliser sur un livre. C'est un média que je n'arrive pas à avaler.
En fait, le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de mémoire. Finalement, je lis des livres, mais je les oublie trop vite.
J'ai lu Sapiens, j'ai adoré par exemple.
Ouais, Sapiens, c'est bien.
Je trouve ça.
C'est ça aussi, c'est.
C'est de la sociologie de bon sens tout, c'est top et tout, mais c'est pas. Tu vois, c'est vachement bien, quoi.
Ouais, dans sociologie, j'ai lu Retour à Reims, qui est dingue aussi.
Ça me dit quelque chose.
Ouais, c'est quand tu rentres chez toi.
Ah oui, c'est ça.
Bah, Retour à Reims, c'est un mec qui parle des quartiers populaires de Reims et de comment il les a quittés.
C'est pas vrai.
Même
pas.
C'est toi qui l'as écrit.
En fait, c'est qui est homosexuel, qui est dans un milieu ouvrier qui accepte pas.
Bah, pas comme ça.
Son homosexualité. Et il a dû quitter ce milieu-là. Et en quelque sorte, il explique à quel point ça lui a permis de rencontrer Paris et de poursuivre ses études alors qu'il n'y était pas encouragé dans son milieu.
D'accord.
Et quand tu lis Retour à Reims, c'est un livre de sociologie qui est très bien écrit. Et il te parle de tout ce qui peut se passer dans un milieu populaire qui essaie de te garder dans le milieu et dans tous les milieux qui essaie de garder... En gros, si tu viens d'un milieu... bourgeois et on va pas vouloir que tu sois plombier et dans un milieu populaire on va pas vouloir que tu fasses des études d'histoire
dans ma pauvre famille j'ai déjà entendu ce sont des ne fréquente pas ces gens ils sont pas des gens de ton rang
mais il décrit très bien ça
des gens de la haute un peu de la haute société
il décrit comment les milieux s'auto-entretiennent dans leur séparation quoi il y a une réflexion très intéressante
c'est fou,
qui m'a beaucoup aussi aidé pour comprendre plein de choses de ce qui se passe quoi
j'avoue. Dans Sapiens, il y a une phrase qui m'a marqué énormément. Il dit que quand on est amoureux, on génère de l'ocytocine et qu'en fait, on n'est pas amoureux de la personne, on est amoureux de la sensation de la personne que la personne nous fait ressentir. Enfin, dans le sens, on est amoureux de la drogue que ça nous fait ressentir.
Ouais,
en fait, c'est la drogue, c'est l'état de la drogue. Et du coup, tu dis, on est des mammifères, mon pote.
Ouais.
On n'est rien de chimique. Des cocktails.
Tout est chimique.
Ouais, mais en même temps, s'il y a que cette personne qui te fait générer cette ocytocine, c'est que c'est la personne.
C'est
qui...
la drogue,
mais
quoi.
Au final, tu n'es qu'une combinaison de molécules, quoi. Ouais.
Bien sûr. Mais tu vois, là, on dirait que ça élimine la personne. Mais en vérité, si c'est la seule qui te le déclenche.
Non, mais ce qui est fou, c'est que toi,
c'est la sensation de la drogue.
Tous les plaisirs sont la drogue qu'il y a dans ton cerveau, quoi.
Ce qui est fou, c'est que tu crois à une espèce de libre arbitre, quoi. T'as l'impression que c'est toi qui choisis parce que cette personne est intelligente et belle, etc. Alors que c'est juste qu'elle a eu un effet sur toi qui est chimique.
Ah, toi, t'as l'impression de choisir de qui tu tombes amoureux.
Non, mais t'as l'impression que la personne, c'est justifié que tu l'aimes. Tu peux te dire, j'adore cette personne, je l'admire, etc. Et tu peux justifier ton amour pour cette personne-là. Alors que probablement, cet amour, il a été créé par tout à fait autre chose.
Ah,
et
oui.
Ton cerveau crée une espèce de narration
après
de l'amour, de l'amour, quoi.
C'est d'ailleurs comme ça que les amours toxiques naissent aussi. C'est que tu as une sorte de biaisé en termes de molécules et tu tombes dans un piège.
C'est d'ailleurs pour ça que souvent, tu bugs quand la personne te dit « Pourquoi tu m'aimes ?» Et tu sais que tout d'un coup, tu attends une liste d'un truc. Mais en fait, je me rends compte que soit j'ai une liste, je me rends compte que je la crée.
Ouais, ouais.
Pour justifier le fait que je t'aime, mais en fait, j'ai aucune raison de. Je sais
c'est
pas
vrai,
pourquoi
ça,
en fait.
J'aurais pas t'aimé.
Ouais,
non, non, mais.
T'aurais ouais, jamais ouais, dû ça, demander c'est... Je me pose la question.
Moi, dans Sapiens, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était l'être humain est capable de parler de quelque chose qui n'est pas là.
Ouais.
Par rapport aux animaux qui ne sont que ouais. conscients de ce qui est là. Et ça
ouais, c'est même tout
je
le.
Je trouve ça ouf.
Ouais, l'imagination, en fait, de pouvoir se projeter.
Ouais, ouais carrément.
La scène, c'est essentiel, là, pour Watt, en ce moment. C'est vraiment le 100% de ta life.
Non, parce que j'ai essayé d'écrire un petit livre de pensée.
Ouais.
Parce que dans mon spectacle que je termine là, je cite un faux philosophe et j'ai écrit les pensées de ce faux philosophe.
Trop stylé.
Donc j'ai essayé de faire ça. C'était très dur. C'était très, très dur. Et je me suis pris aussi une belle claque dans ce projet-là. Mais j'ai envie d'en refaire.
Il n'y avait pas des projets où je me prends des claques. Comme ça, non ?
Comment ?
Botul, tu connais ?
Oui, 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 c'est un faux philosophe aussi.
Ouais,
qui a été cité un jour par BHL.
Ouais, c'est ça, c'était les Oulipiens, ou je ne sais plus comment on dit, qui avait
ouais,
créé ce mec.
Ouais, ouais, ils ont
fait que des aphorismes incroyables. Et,
ouais. Ouais, ouais, complètement.
Et BHL l'a cité en sachant
en
pas.
En pensant que c'était un vrai, que philosophe, c'est un vrai philosophe et pas l'œuvre d'un collectif.
Ouais, mais c'est officiel que qu'il est faux. Là, je n'essaie pas de faire un canular. Là, c'était un vrai canular, je veux dire. Ils ont créé un faux philosophe. Et l'expérience était riche en enseignements. Et non, il n'y a pas que la scène, mais il y a une bonne partie, oui. En ce moment, je suis en train d'écrire le spectacle, donc oui.
Une petite anecdote de scène de tes débuts, un truc comme ça. T'as pas une petite anecdote ?
Ouais, si, j'en ai une.
Vas-y.
Est-ce qu'on aime ça ? On trouve que ça croustille.
On adore les petites anecdotes.
Je trouve que ça croustille.
Un jour, j'ai habité à Toulouse.
Putain, c'est ouf. Bah, ouais, merci pour cette anecdote.
Putain, merci à vous d'avoir regardé l'émission. Merci, j'espère que vous avez certainement vu qu'il y avait des indices.
J'avais écrit une scène ouverte dans un bar et tout, mais un jour, il y a eu un plateau, une espèce de concours humoristique que je déteste, parce que j'aime pas qu'on descende des prix et tout. Ouais. Mais en tout cas, là, il fallait que je joue mon sketch et à un moment, je
parle au public. Est-ce que t'es le genre de mec qui pourrait refuser son César ou son Molière ?
Ah, mais complètement.
Non, je n'aime pas cette compétition.
Non, mais complètement. Moi, je ne regarde jamais ces trucs-là et je supporte pas ça.
Donc, tu refuserais. C'est là, on te dit Molière du meilleur spectacle d'humour. T'y vas pas.
Bah, je pense.
2 ans plus tard.
Merci, ouais, merci. Non, mais mon sketch se passe bien. Très bien, même. Et à un moment, je demande, je sais plus quoi au public. Je demande quelque chose à un mec du public. Et le gars, il se lève. Et il dit, ouais, eh ben, ça tombe bien. Moi, j'en profite. Il se retourne. Il se met comme ça, dos à moi, parce qu'il est au premier rang face au public, il dit « Parce que moi, je vends des climatiseurs. Et on fait partie des meilleurs climatiseurs de la ville. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter. » Et il fait son truc, et je fais...
En tout cas, le mec, il sait refroidir l'ambiance. Donc, il prouve, il sait vraiment refroidir l'ambiance.
Ouais.
Il prouve qu'il a les meilleurs climatiseurs.
Putain, j'aurais dû faire cette vanne. Mais
t'imagines qu'en plus,
là,
vraiment, il le
dit,
là,
il dit.
J'aurais dû faire cette vanne, le fameux truc quand t'es débutant, tu sais pas comment réagir.
Je suis comme ça, merde. Et comment je fais pour rattraper le truc et tout? Parce qu'en plus, c'était un truc à personnage. C'était même pas du stand-up. Un truc à personnage et tout. Je fais bof.
Pour expliquer aux gens, truc comme ça, c'est que dans ton truc, tu peux pas sortir de ton personnage.
Ouf! Ça m'a mis dans une galère. Et ça, les gens ont beaucoup rigolé. Après, j'ai rigolé avec lui et tout. On a improvisé tout ça. Mais après, pour retourner au sketch, c'était mort.
Tu as un climatiseur, d'ailleurs.
Exactement. Et pour retourner au sketch, c'était mort. Quoi. C'était foutu. Et le gars, il s'est retourné. J'ai trouvé ça impressionnant.
C'est que le mec était là, genre...
Quelle audace.
Ouais, c'est mon moment. Je viens d'investir tout mon argent dans mes climatiseurs. Faut que je les vende.
C'est dingue. C'est dingue de penser à ça. Tu penses à ton taf, alors que t'es en train de regarder un spectacle d'humour. Moi, je trouve que le gars a un courage pas possible.
Un aplomb. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a un mec à Toulouse qui est là, qui est au frais, qui dit, mais c'est quoi l'histoire de climatiseur ? J'étais à un spectacle d'humour.
Figure-toi.
Il faisait des personnages. Et à un moment, il y a un mec qui s'est retourné, il a dit, j'en ai climatiseur. Ça tombait parfaitement.
On dirait un rêve. On dirait un mec qui décrit un rêve.
Ouais, c'est ça.
Il y avait Haroun, il faisait des personnages. Et là, un homme se lève, il dit, je vends des climatiseurs. Et je sais pas pourquoi, j'en achète un, quoi.
Et là, bam, je me réveille.
Et là, bam, il y a mon père qui arrive sur une trottinette. Et qui me dit, je t'ai jamais aimé! Et là, je me réveille.
Donc voilà, donc c'était dingue ce qui s'est passé. C'était absolument. En fait, c'est absolument le moment que tu peux pas prévoir quand tu dois parler à un public. Quoi. Tu as prévu toutes les réponses pour réagir. Tu dis, si je lui dis ça, il me dit ça, tu me dis ça, je lui dis ça.
Tu
ne
peux pas prévoir le climatiseur.
Absolument pas.
Est-ce que tu passes un bon moment?
Très bon.
Est-ce que je peux me permettre de t'offrir un abonnement à MyCanal?
Écoute, avec plaisir.
Et ben voilà.
Alors par contre, c'est Mike Anal, hein, c'est un autre truc. C'est un des mecs qui se fait des micros dans le HUC, c'est pas fou. MikeAnal.fr.
Hey, tu devrais être humoriste, mec.
Ouais, merci.
Vas-y, viens écrire pour moi.
Ok.
Vas-y, allez, allez.
Ça te plaît?
Ah, j'adore.
Ok, parce que j'ai une idée. Ce serait genre un spectacle sur scène.
J'adore.
Ça s'appellerait Une Bonne Soirée.
Super.
On le fait?
Bah ouais.
Ça peut schémar.
Allez.
Ok.
Ça peut schémar.
Est-ce que tu aurais une petite tradition dans cette émission? Est-ce que c'est une recommandation d'une série ou d'un film que tu as vu récemment?
Ou d'un livre?
Mais les livres, on l'a déjà fait.
Waouh, pardon.
Bah non, mais t'as déjà fait.
Mm-hmm.
Est-ce que t'as une petite, un documentaire que t'as vu?
Ou un livre.
Que t'as... Ou un livre, que... documentaire, un livre filmique.
Une un album, de la musique, ça peut être...
Comme tu veux.
Enfin, c'est un seul truc, c'est ça?
Ce que tu veux.
C'est un seul truc.
Tu recommandes ce que tu veux.
J'ai entendu deux, on va pas t'insulter. Hein,
d'accord, ok.
Bah, il en
deux. J'ai découvert la chanteuse Iseut.
Iseut.
Que j'adore. Ça, hyper fort. C'est entre... la chanson et le rap, et il y a un esprit un peu, je trouve un peu troll, mais très, hyper belle voix, super texte. Franchement, j'ai adoré, ça m'a scotché.
Mm-hmm.
Notamment la chanson Corps qui m'a vraiment, bon, ça m'a assis, quoi.
Charmé.
Donc je la recommande. C'est des choses, enfin, il n'y a jamais de truc humoristique dans ce que je recommande.
Pas de soucis,
J'ai adoré la série Westworld.
Westworld, ouais. Qu'on a sur OCS, sur ouais. HBO.
La réflexion qui est dedans est très riche et, ouais. Et j'aime beaucoup les séries
ah, c'est charmé.
Avec, avec des fonds de réflexion comme ça. Où tu dis,
beaucoup de violence. Hein.
Oui, oui.
Oui, beaucoup de violence.
Oui,
hein.
Oui, mais ça pose des vraies questions. La vie est violente.
Ouais, c'est quand même pas violent à la...
C'est pas comme Malcolm.
Il y a des dealers et... Non, mais tu vois, c'est pas des trucs d'affrontement de gang, etc. C'est très imagé, quoi. C'est des androïdes. Ouais.
Bah, dis rien, spoil pas, les gens qui veulent regarder.
Bah quand même, on le sait assez vite.
C'est l'histoire d'androïdes, d'un monde créé avec des androïdes.
De défoulement, quoi. Un monde de défoulement.
De défoulement, ouais. Ouais, exactement. Mais c'est pas du défoulement comme on pourrait l'imaginer avec du gore, quoi. C'est pas du gore.
Ouais, je vois très bien. Ouais, il y a quand même des choses.
Des moments, ça part en gore.
Il y a des sacrés trucs, quand même.
En fait, c'est une montée progressive, du coup, tu t'habitues.
Oui, mais... oui, ok, peut-être. C'est vrai.
Il se remet dans les scènes, c'est vrai qu'à un moment,
ça éclate des têtes et ça viole. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est assez hardcore.
C'est le titre de ma sextape, d'ailleurs.
C'est vrai. Mais ça pose vraiment des questions sur l'humanité qui sont dingues.
C'est le titre de ma sextape aussi. C'est très profond aussi. Putain, c'est fou, toutes mes sextapes.
C'est ouf.
Mais en fait, c'est le That's What She Said de Navo, c'est ça?
Ouais, mais c'est même pas le mien, d'ailleurs. C'est dans le titre de ta sextape, c'est Brooklyn Nine-Nine, je crois.
Ah, d'accord, ok.
Mais c'est
je connais pas, je suis très peu.
En tout cas,
renseigné.
C'est exceptionnel, acide et gargantuesque.
C'est quoi, la série?
Non.
Quoi, t'attends que je dise quelque chose?
C'est le titre de ma sextape.
Haroun,
comme
merci
si j'allais
venu,
le dire
merci
au moment
que
je le dise,
venu.
Comme si j'allais pas parler en même temps que lui. D'ailleurs.
Merci beaucoup d'être venu, Haroun, ça fait grave.
Bah, merci à vous de m'avoir
invité. Merci à toi.
Cool.
On te retrouve sur pasquinade.fr, ton actu sur les réseaux sociaux. Pour venir te voir sur scène. Tout ça et tout. Merci vraiment, merci pour ton modèle, merci pour ce que tu fais pour la génération qui est en train d'arriver.
Ça sera utile.
Et il y a aussi unebonneboutique.com, unebonneboutique.fr, ça marche aussi en France, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, nos impôts sont déclarés en France, et ça, c'est important, t'imagines. Qu'est-ce que vous pouvez trouver sur unebonneboutique.com? Tout le merch de l'émission Un Bon Moment, mais aussi.
Et les sextapes de Navo.
Les sextapes de Navo, le merch de Bref.
On va les mettre.
Des vêtements Bref, des vêtements bloqués, des vêtements Serge Lemito, des vêtements d'autres artistes aussi, plein de choses à voir si vous voulez vous faire kiffer. Ça nous fait kiffer et en plus, ça participe à l'économie de l'émission et ça nous permet de continuer à produire des contenus gratuits et les offrir aux gens. Donc, prenez-vous un petit kiff ou faites kiffer les autres. Voilà. Nous, ça nous a fait kiffer de partager cette émission avec vous. Navo, tu veux rajouter quelque chose? C'est le titre de ma sextape. Navo, tu veux rajouter quelque chose?
Tu veux un papier? T'inspirer?
Merci, Navo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.